Nous lisons dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 4, les versets 1 à 7. La femme d'un des fils de prophètes implora Élisée. « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait le Seigneur. Or, le créancier est venu dans l'intention de prendre mes deux fils comme esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, que possèdes-tu chez toi ?» Et elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout chez elle, si ce n'est un peu d'huile. » Il dit, « Va emprunter des vases chez tous tes voisins, des vases vides, le plus que tu pourras. Et puis rentre, ferme la porte sur toi et sur tes fils et verse dans ces vases. Chaque vase, une fois rempli, tu le mettras de côté. » Elle le quitta, ferma la porte sur elle et sur ses fils. Ceux-ci lui présentaient les vases et elle versait. Et quand les vases furent remplis, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Et il lui répondit, « Il n'y en a plus. » Alors, l'huile cessa de couler. Elle vint en informer l'homme de Dieu qui dit, « Va, vends l'huile et paye ta dette. Ensuite, tu vivras, toi ainsi que tes fils, avec ce qui restera. » Nous chantons au cantique 204 les strophes 1 et 2.
Thank you.
Nous prions. Seigneur, comme tu nous accueilles et comme tu nous montres par ce geste du baptême que tu es toujours là, avant nous, ta parole aussi nous précède et nous accompagne. Aide-nous à l'entendre, à l'écouter et à faire qu'elle résonne en nous pour nous donner encore cette liberté que tu nous offres et cet engagement que tu nous promets. Amen. Chers amis, ce début du livre des Rois cette fois-ci, on y va. Donc, toujours, chers amis, ce début du deuxième livre des Rois nous présente une série d'épisodes qui sont liés à ce prophète Élisée entre les chapitres 2 et 13. Élisée représente une grande tradition prophétique du royaume du Nord. Vous savez qu'à ce moment-là, il y a deux royaumes, celui du Nord et celui du Sud. Et ce royaume du Nord n'en a plus pour très longtemps, il va bientôt être détruit. Élisée, ce prophète, est engagé dans la vie politique de ce royaume. Il va même organiser un coup d'État pour changer la dynastie régnante. Et dans ce royaume-là, dans le royaume du Nord, on vit un petit peu différemment que dans celui du Sud, qui est complètement centré autour de Jérusalem, où Jérusalem est vraiment le centre de tout. Ce royaume du Nord est moins centralisé, moins centralisateur. La vie s'organise autrement. Il y a plus d'espace pour une vie moins urbaine, pour des traditions de village. Mais il y a aussi une dynastie très forte de rois qui va assurer une certaine prospérité à ce royaume, mais au prix de coûts sociaux élevés, comme on dirait aujourd'hui. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas la même chance de profiter de la prospérité. De plus, ce royaume du Nord est un royaume qui n'a pas bonne presse dans le livre des Rois, car ces livres sont majoritairement écrits par ceux du Sud. Et vous savez comme c'est dans ces cas-là, on a un peu tendance à penser au Sud qu'il n'y a pas grand-chose de bon à tirer de ce royaume du Nord. Donc, quand nous commençons, nous, à lire ces textes, nous entrons déjà dans une discussion qui nous précède, dans des interprétations, dans un conflit de traditions, dans des visions différentes du monde que nous offrent ces textes. Nous ne pouvons pas donc lire ces textes comme si de rien n'était, comme si on pouvait accéder directement à l'histoire en toute objectivité. Ces textes ont des partis pris, les partis pris de ceux qui les écrivent, comme nous avons des partis pris, les partis pris de ceux qui les lisent. Ce sont nos expériences, notre façon de voir la vie qui nous les font lire d'une certaine façon. Et la théologie que nous pouvons en faire, que nous essayons de faire, est toujours seconde par rapport à nos expériences. En d'autres mots, les théologies, nos théologies, toutes les théologies sont contextuelles, aussi bien celles des rédacteurs de ces textes que les nôtres, celles des lecteurs et des lectrices. Pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que ce texte, ce petit texte, 7 versets, je l'ai promené dans différents contextes. Il m'arrive souvent actuellement d'enseigner à l'Institut protestant de Paris, où je suis professeur d'Ancien Testament, mais je l'ai aussi travaillé à la faculté de théologie protestante à Managua, au Nicaragua, où j'enseigne aussi parfois, ou de l'utiliser dans des formations de prédicateurs laïcs, de méthodistes ghanéens ou ivoiriens en Italie, ou d'organiser des sessions de lecture biblique avec des femmes de tradition maya au Chiapas, au Mexique. Et chaque fois, je mesure concrètement combien à la fois nos expériences de vie sont au cœur de nos théologies et combien aussi ces textes qui nous parlent en métaphores, en images très fortes, peuvent sans cesse venir réinterroger nos expériences. C'est là tout le souffle de l'inspiration qui n'est pas sclérosé dans un écrit tellement saint qu'il en deviendrait intouchable et qui n'est pas non plus prisonnier de notre logique et de notre vision du monde. Mais revenons à l'histoire d'Élisée et à ses urgences. Le texte que nous venons d'entendre au chapitre 4 est donc un des premiers épisodes qui le concerne. Et c'est un récit de miracle, très ramassé, concentré, en peu de versets. On y trouve plusieurs caractéristiques des textes de miracle. D'abord, on expose la situation, tout ce qui ne va pas. Et puis, c'est la rencontre du prophète et la réalisation du miracle qui transforme la situation. Et il faut finalement que quelqu'un reconnaisse ce miracle. Le premier verset nous expose donc cette situation, une situation bloquée, dramatique, de grande précarité. On entend une femme crier. Elle parle de mort, de créanciers et d'esclaves. Cette femme exprime en quelques mots l'étau qui se resserre sur elle. Elle a perdu son mari, qui était un prophète du groupe d'Élisée. Le type de prophétisme que Élisée semble avoir vécu était souvent caractérisé par cette vie dans des groupes de prophètes. Donc elle a perdu son mari et maintenant elle risque de perdre ses deux fils d'une autre sorte de mort, soumis à l'esclavage à cause des dettes qui s'accumulent et qu'elle ne peut plus payer. L'argent qui dévore la vie, la précarité qui entraîne toujours plus de précarité, que ce soit au 8e siècle avant Jésus-Christ en Palestine, ou à Paris, ou au Nicaragua, ça a toujours la même violence mortifère. On peut reconnaître en cette femme une des victimes de la pauvreté qui reste un élément constitutif de notre monde qui pourtant revendique tant d'évolution. On comprend bien dans quel état peut se trouver cette femme, qui, comme beaucoup d'autres dans les textes bibliques d'ailleurs, n'a pas de nom, n'est pas très identifiable. Est-ce juste la femme de son mari, prophète ? Est-ce une femme prophétesse elle-même ? Les paris sont ouverts, et nos interprétations aussi. Les mots du texte montrent en tout cas le basculement de sa vie. Le mot traduit ici par esclave est le même que celui traduit par serviteur dans le cas du mari, au service et actif dans le groupe de prophètes lié à Élisée. Ce même mot sert donc à opposer deux réalités complètement différentes, un homme au service et actif d'un groupe prophétique et deux enfants emmenée en esclavage par manque de ressources. La disparition de ce serviteur a donc pour conséquence le fait totalement injuste que deux enfants soient emmenés en esclavage dans une autre maison par manque de ressources. Tout est donc décrit ici dans cette première situation comme détresse, manque, perte. En finale, le dernier verset montre comment les choses se sont renversées. Et cette fois, c'est une parole d'Élisée qui dit cette nouvelle réalité. Il y a abondance maintenant, abondance d'huile qui va permettre de payer la dette. Le mot employé ici pour payer n'évoque pas une simple action commerciale, monétaire. Il signifie en fait combler totalement. C'est la même racine que le fameux mot shalom que l'on connaît, qui traduit la paix, mais surtout la plénitude. Et il y a du reste qui va faire vivre toute la famille. Le « tu vivras » de la fin s'oppose à la phrase « mon mari est mort » du début, et le « tu vivras avec tes deux fils » s'oppose au « prendre mes deux fils » que nous avions dans le cri de cette femme. Mais comme chacun des récits de miracles qu'on trouve dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, celui-ci a sa propre couleur, sa propre saveur, ses caractéristiques. Alors regardons d'un peu plus près comment il nous est raconté. En premier lieu, on peut se demander s'il y a un acteur principal dans ce récit, un héros. Évidemment, il y a le prophète Élisée. Il en est ici à ses débuts et il semble que ce récit serve davantage à le qualifier comme héros, puisque on le nomme d'abord deux fois par son prénom, Élisée, qui contient le mot « elle », qui est le nom de Dieu, et puis à la fin, on l'appelle l'homme de Dieu. On reconnaît donc qu'il est au service d'une cause plus grande que lui-même. Et comme nous l'avons observé, c'est aussi lui qui a le dernier mot dans l'histoire. Ça lui donne donc une certaine importance. Mais finalement, il est assez en retrait. On ne sait pas où il se trouve exactement. Il n'est en tout cas pas dans un lieu officiel repéré qui lui donnerait un statut. Et il ne semble pas bouger du début à la fin. Il ne fait rien, il n'agit pas, il ne se démène pas dans tous les sens et sur tous les fronts, comme un pasteur, comme un animateur ou un bénévole d'une association d'entraide. Il n'intervient pas non plus comme un expert, détenteur de la théorie qui va amener la solution au problème. Il ne fait que donner des ordres à cette femme, beaucoup d'ordres, 7 en tout, au verset 5. 7 verbes à l'impératif. Dans les traductions, on ne les voit pas tous, mais ils sont là. 7, c'est-à-dire un ensemble, une totalité d'ordres. Élisée ne fait que parler, c'est un miracle par la parole. Il n'y a aucun geste magique, pas le plus petit rituel, pas la moindre prière même. On n'est pas dans un show pour montrer la puissance d'un Dieu qui peut tout faire, qui a réponse à tout, qui s'étalerait, qui remplirait tous les vides, tous les interstices. Élisée n'a pas une théologie envahissante. Il n'a pas non plus un contrat à faire signer à cette femme pour lui demander de suivre une formation, de faire un projet pour lui apprendre à être responsable ou à mieux gérer ses finances. Et Élisée n'est même pas présent au moment du miracle, qui a lieu toute porte fermée dans la maison de cette femme, dans la plus grande discrétion. Le narrateur nous laisse en quelque sorte regarder par une petite fenêtre ce qui se passe à l'intérieur, mais Élisée, lui, n'y est pas. On ne peut donc pas dire qu'il tire avantage de son rôle pour se mettre en avant, bien au contraire. Tout ça ne va même pas l'aider pour demander des subventions pour l'année suivante pour son groupe de prophètes. Mais il sait poser la bonne question au bon moment pour lancer la dynamique. Il lui offre de l'aide en s'impliquant. Qu'est-ce que je peux faire ? Mais il lui donne aussi le premier rôle en lui demandant ce qu'elle est là à disposition. Il propose de faire avec ses ressources, ses idées à elle. Et des idées, elle en a. Il suffit de lui laisser la parole. L'idée de l'huile, c'est elle qui l'a. Donc, si on cherche un héros dans cette histoire, il y a aussi la femme. qui refuse de se laisser vaincre par l'adversité, une héroïne du quotidien qui dépense toute son énergie pour tenter de survivre, qui va et qui vient à la recherche d'une solution. Même au fond de son désespoir, elle a encore de l'espoir. Elle ne se résigne pas, car elle en passe du temps et de l'énergie à chercher une solution à ses problèmes. En ces quelques versets, elle a le temps de faire deux fois l'aller-retour chez Élisée, avec entre-temps une visite chez tous les voisins pour rassembler le maximum de contenants pour son huile, avec toute l'énergie de son désespoir. Et tout ce travail-là, invisible, n'est d'ailleurs même pas mentionné. Il est inscrit entre deux verbes, « elle le quitta », Élisée, et elle ferma la porte sur elle. Tout ce travail-là n'est même pas écrit noir sur blanc, mais c'est à cet espace-là que le texte nous renvoie, nous, les lecteurs et les lectrices. C'est le moment où tout le monde intervient, où il faut rassembler les contenants et d'abord y croire assez pour aller les demander aux voisines. Et ça, c'est une expérience que les lecteurs et les lectrices du Chiapas, du Nicaragua ou du Ghana connaissent bien. Ils la voient immédiatement dans les blancs du récit. Sans doute parce que la pauvreté chez les riches se manifeste en plus par l'exclusion, alors que la pauvreté dans un pays où la majorité des gens sont pauvres se vit davantage dans la solidarité. Dans cet espace-là, dans celui du rassembler les contenants, ou on pourrait dire aussi de trouver les outils pour faire changer les choses, il y a toute cette activité magnifique et cruelle de tellement de gens, de femmes, d'hommes, qui chaque jour se démènent pour survivre, qui font des petits boulots, qui travaillent dans l'économie informelle, qui inventent des réseaux de solidarité, qui parlent avec leurs voisins. C'est au cœur de ce quotidien-là que peuvent avoir lieu des miracles, nous annonce-t-on ici. Et c'est vrai qu'au Nicaragua ou ailleurs, ce genre de miracle a lieu souvent. Miracle de gestes de solidarité, miracle d'invention à plusieurs, de prise de parole de celles et ceux qu'on n'écoute pas, miracle pour celles et ceux qui croient que si on rassemble les contenants, le Dieu de la vie fera le reste. On peut donc tout aussi bien raconter l'histoire à partir d'elle, en faire l'héroïne. Il n'y a pas de verset où elle ne soit présente, et elle est le sujet de toutes les initiatives. Elle implore, elle répond en amenant l'idée de l'huile, elle quitte Élisée et va accomplir tout ce qu'il lui a dit de faire, elle revient l'informer du miracle. Elle dit oui à la vie et non à la mort, avec les moyens qu'elle a. C'est donc avant tout un miracle de la parole et surtout du dialogue. Si on privilégie cette piste, on peut aussi découper ce texte à partir des dialogues qui y figurent et qui le structurent. Un premier double dialogue entre la femme et Élisée, puis l'opération de remplissage, avec à l'intérieur de cette opération un dialogue entre cette femme et son fils, et puis à nouveau un dialogue entre la femme et Élisée qui ne nous est rapporté qu'à moitié. Dans ce cas, le rôle des deux personnages est très imbriqué et il permet de mettre en relief ce dialogue particulier, celui de la femme avec son fils, dans la belle séquence du verset 5 et 6 où on voit l'activité des trois complètement coordonnée comme un flux continu à l'image de l'huile qui coule et qui s'achève lorsqu'il n'y a plus de vase. C'est là qu'on trouve un dialogue avec un des fils, distingué comme une personne et non plus pris dans le bloc de mes deux fils, comme au début. Le miracle est donc là fait de paroles, de contact avec les voisins et d'une coopération familiale au cœur du quotidien dans un geste très concret qui pourrait paraître des plus insignifiants, remplir des pots ensemble. Et c'est la solidarité des voisins, le dialogue entre les générations qui ouvre sur cette nouvelle économie familiale et donne une nouvelle visibilité à cette femme. C'est aussi d'ailleurs un miracle où Dieu est très discret. Il n'est mentionné que deux fois, uniquement comme référent et pas comme acteur. « Ton serviteur craignait le Seigneur », dit la femme au début, « Élisée, l'homme de Dieu », à la fin. Il suffit, que ces références encadrent le récit. Pas besoin de plus pour savoir qu'on peut trouver ce Dieu-là au cœur du quotidien comme celui qui nourrit son peuple. J'ai repensé à ce texte en écoutant, il y a quelques jours, à l'Institut protestant, une conférence brillante d'une économiste de très haut niveau, Esther Duflo, chargée d'une chaire de savoir contre les pauvretés au Collège de France, pas vraiment membre du groupe des prophètes d'Élysée. Et pourtant, avec d'autres mots, elle disait des choses bien proches. Elle plaidait pour une réflexion économique basée sur les expérimentations créatives de terrain. Et on pourrait finalement tout à fait désigner ce petit récit de miracle d'Élysée comme une expérimentation créative de terrain. Parce que ces expérimentations, elles ont un pouvoir subversif, dit-elle, que n'ont ni les expériences de laboratoire, ni les évaluations rétrospectives de programmes. Le titre de sa conférence était « L'espoir contre la pauvreté ». Partant du constat qu'on a une vision différente du présent et du futur si on est riche, donc protégé, ou si l'on est pauvre, elle soutenait que le premier élément nécessaire à toute politique de lutte contre la pauvreté, c'est l'espoir. Car s'il n'y a plus d'espoir chez les agents sociaux, comme on dit, chez les gens, alors aucune mesure, aucun programme, aucune planification ne peut fonctionner. Le récit que nous avons entendu est un récit d'espoir, de remise en route, d'ouverture d'un horizon fermé. Comme le baptême que nous avons aussi vécu ensemble ce matin est aussi un geste d'espoir. Alors, puissions-nous, dans nos réseaux, dans notre quotidien, voir et susciter de petits miracles et voir celles et ceux qui n'ont rien d'autre à crier que leur angoisse devenir sujets de leur propre vie, voir les générations entrer en dialogue, voir renaître l'espoir et nous retrouver avec toutes celles et ceux qui disent oui à la vie. Amen.